franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La cité interdite de Pékin.
Dans ces lieux, 300 000 hommes et femmes se sont assemblés, tandis que près de 2000 musiciens chantaient à l'unisson les louanges de l'empereur.
Ensuite, les trois portes se sont ouvertes, toutes grandes, et les gens se sont précipités à l'intérieur.
Grande presse, dès demain, au Louvre, dont les portes s'ouvrent sur l'exposition « La cité interdite », dont la marche de l'histoire reçoit l'un des commissaires aujourd'hui, Jean-Paul Desroches, bonjour.
Bonjour.
Par ailleurs, conservateur général au musée Guimet, dont vous avez rejoint le studio de l'avenue Mangin de Radio France en scooter. Jean-Paul Desroches, le sujet de « La cité interdite » a été traité peut-être par 25 ou 26 expositions, mais n'avait pas été traité à Paris depuis 15 ans. Et en 96, c'était dans un espace plus restreint, le Petit Palais. Or, quand on considère la cité interdite, il faut voir large. On a entendu des chiffres tout à l'heure cités dans l'exergue. Et sur les tablettes impériales étaient inscrits des chiffres, eux aussi inégalés, au XVIIIe siècle, au cœur de Pékin. On comptait peut-être 800 000 habitants dans la capitale, vivaient peut-être 10 000 serviteurs sous un labyrinthe de toits, dans un emboîtement, un enchevêtrement de palais. Et tous ces gens étaient dissimulés, séparés à la disposition de l'inaccessible fils du ciel, lequel devait gravir les marches du kiosque du jardin de l'excellence accumulé pour apercevoir au loin, peut-être dans la brume, un peu de son empire. Cet empire, c'est difficile à saisir et aussi à joindre. On va commencer en parlant des conditions de la naissance de la cité interdite. Vous faites la comparaison dans l'exposition entre le Louvre, dont la gestation est lente, génération après génération, et le geste de fondation au début du XVe siècle par un empereur Ming qui venait de déposséder son prédécesseur de sa capitale Nankin de la cité interdite.
Oui, c'est exact. Il fallait un geste fort. Et il voulait inscrire ce geste fort dans le nord de la Chine parce qu'en fait, il était un prince du nord de la Chine. Et il avait compris aussi stratégiquement qu'il était extrêmement important d'implanter sa capitale dans cette région puisque la menace permanente vient du nord en Chine, notamment des populations des steppes. Donc c'était fondamental. C'est un geste qu'il a fait tout à fait au début de son règne puisque finalement il y a quand même une assez longue gestation, bien que la réalisation fut extrêmement rapide.
Donc le geste c'est 1407.
Le geste c'est 1407.
Mais le nom de cet empereur c'est...
Le nom de cet empereur, c'est l'empereur Yongle, qui va régner jusqu'en 1424. Et finalement, la cité interdite sera réalisée quasiment en 2 ans et demi, 3 ans, par une mobilisation, comme on avait coutume en Chine, pour réaliser ce type d'activité.
Description de la mobilisation générale par un documentaire de Christian Twente, c'était en 2007.
Les gigantesques troncs naviguaient au gré des fleuves et des canaux. Dans la nuit, en heurtant les rives, ils faisaient des bruits de tonnerre. Dans un coude, un énorme rocher leur barrait le passage. Mais les troncs étaient si solides qu'ils brisèrent le roc en deux et passèrent dans la brèche sans subir le moindre dommage. L'empereur jugea que les divinités lui avaient été favorables. Il baptisa donc le lieu où ce prodige avait eu lieu, la montagne des divinités sylvestres.
On a besoin d'aide par ici.
100 000 ouvriers, des prisonniers pour la plupart, travaillent sur le chantier du lever au coucher du soleil. La nuit, une cangue les entrave, les empêchant de s'enfuir. Des milliers de tailleurs de pierre et de stucateurs, tous réquisitionnés, ont déjà entamé l'ornementation de la triple terrasse de marbre. Des artisans décorent les boiseries des palais à la feuille d'or. Une vingtaine d'années s'est écoulée depuis que Yongle a ordonné la construction de la cité interdite. Les ressources de l'Empire sont épuisées. Li Shimian rédige un mémorandum qui dénonce ce fardeau qui pèse sur le pays.
Majesté, Le chantier titanesque a déjà coûté des sommes colossales. Des milliers de paysans ont dû mettre leur terre en jachère pour travailler à votre projet. Dans toutes les provinces de l'Empire, les gens meurent de faim, se nourrissent d'herbes ou d'écorce. Ils doivent vendre leurs femmes et leurs enfants pour subsister.
Ah, les avertissements qui sont posés en vain par les fonctionnaires, lesquels vont d'ailleurs trouver leur place dans la cité interdite.
Tout à fait. Finalement, en dehors de la famille impériale elle-même, en dehors des eunuques qui étaient au service de cette famille, seuls les fonctionnaires peuvent pénétrer dans ce lieu secret et sacré.
C'est là qu'on proclame les résultats des examens.
C'est là qu'on fait qu'on inaugure l'année avec le évidemment le premier de l'an. C'est là qu'on reçoit les grandes ambassades et cette cité est ouverte. En partie, la partie avant à ces cérémonies, la partie arrière étant réservée, évidemment, à la vie privée de l'empereur. Mais il y a une chose qui a été dite très nettement dans cet enregistrement qui vient de nous précéder et qui à mes yeux, a beaucoup de sens. C'est justement la nécessité, j'allais dire, de déboiser en particulier le sud de la Chine, puisque une grande partie des colonnes les plus importantes sont en anmou, en bois du sud, un bois extrêmement résistant. Et ces colonnes ont été transportées grâce à un aménagement fondamental pour la Chine qui va permettre, évidemment, de situer cette capitale et cette cité interdite dans le nord. C'est la reconstruction du Grand Canal, puisque le problème de la Chine, il y a en fait deux Chines, la Chine du riz du sud, la Chine du blé du nord, et il faut les maintenir et les rendre solidaires. Et quand on met une capitale dans le nord, il faut un axe vital, hein, et cet axe vital, c'est le Grand Canal. Dès 1411, Yongle s'attaque à ce Grand Canal, et au bout de ce Grand Canal, j'allais dire, l'apothéose, c'est évidemment la cité interdite.
Qui est là pour joindre l'Empire, malgré
qui est
sa
là
position
pour joindre l'Empire, et évidemment, c'est l'identité même de l'Empire, puisque au centre se trouve le trône, et c'est-à-dire le Fils du Ciel.
On se met dans la position du fonctionnaire, on pénètre dans la cité interdite à la suite d'un documentaire au RTF 1973.
La ville de Yunglo se compose de 3 grands palais et d'environ 75 palais plus petits qui comprennent 9000 pièces. Le bois qui venait de Yunnan peut durer 1000 ans. Chaque bâtiment était exposé au sud d'où viennent tous les vents de bienfaisance et de bonté. Le premier des 3 grands palais que nous visitons est le palais de la suprême harmonie, le centre du centre de l'univers. Il n'est utilisé que pour la plus sainte des saintes occasions. Sur la grande terrasse, la tortue symbolisait longévité, force, vertu et honnêteté. Il y a 500 ans, sa seule présence garantissait que personne n'était corrompu dans le palais. La grande frise de marbre représentant les dragons se trouve dans l'escalier central. L'empereur le gravissait sur une chaise à porteurs, car seuls les esprits saints invités aux festivités avaient le droit de marcher sur ce qu'on appelle l'escalier de l'esprit.
Les façades ne sont pas vraiment adaptées pour recevoir d'importants décors. Il faut regarder les toits, les regarder d'en bas, les regarder d'en haut, les lire d'en haut d'ailleurs.
Oui, il est évident que la conception même de l'architecture chinoise est extrêmement différente de celle de l'architecture occidentale. Puisque tout palais est construit d'abord sur un tertre, ce tertre va être généralement terre d'amée, et quand il s'agit évidemment de la cité interdite, il est recouvert de marbre, de marbre blanc. Il est quadrangulaire comme la terre d'ailleurs, c'est le symbole de la terre. Puis la partie réservée à la vie elle-même, elle est en bois. Donc, elle est essentiellement construite à partir de colonnes, de colonnes de bois en anmou. Il s'agit évidemment de ne pas multiplier ces colonnes et de laisser la place la plus libre possible. Donc, au lieu de chapiteaux, on va avoir des encorbellements. Et ces encorbellements auront comme fonction de soutenir une architecture, une charpente extrêmement lourde, parce que le toit est très lourd et le toit est le lieu, justement, de l'expression. Et le toit, lui, est réalisé en céramique, et notamment pour la cité interdite, en céramique jaune, symbole même de l'empereur. Jaune parce que la terre est jaune, parce qu'il est le premier des agriculteurs.
Attendez, on est à l'époque Ming, là.
Oui.
Alors, est-ce le jaune ?
C'est le jaune pour les toitures, mais c'est le rouge pour les colonnes.
Alors, moi, j'ai un micro rouge. Allez, je reprends la parole encore un instant pour vous faire commenter les personnages, les figures. Il y a les dragons, on en reparlera peut-être, mais là, les tortues. Les tortues qui crachent des vapeurs d'immortalité, oui, mais alors, qui symbolisent aussi la garantie contre la corruption.
Oui, tout à fait. Vapeur d'immortalité. La tortue est d'abord un être extraordinaire pour les Chinois. Un être extraordinaire depuis la haute antiquité, parce que la tortue a une longévité. Elle traverse les générations. On ne sait pas. Votre grand-père, arrière-grand-père l'a vu. Vous, petit-fils, vous allez la voir. Vos enfants l'ont vu. Donc, c'est fantastique, d'une part. D'autre part, sa morphologie même, pour les Chinois, est à l'image de l'univers. Vous avez une carapace qui est comme la voûte céleste, et vous avez un ventre plat qui est exactement comme le carré terrestre. Et donc c'est finalement une image du cosmos. En plus, la tortue dans la légende chinoise serait sortie d'une rivière célèbre, la rivière Luo, et elle aurait porté les écrits sacrés. Donc c'est pour ça qu'elle symbolise à la fois l'éternité, la pureté, l'aspect incorruptible.
Alors, pureté, incorruptibilité. L'empereur vit dans l'harmonie ou crée l'harmonie par le contrôle de soi qu'il exerce.
Tout à fait.
Dans la ritualisation de sa vie quotidienne sur lui-même.
Tout à fait. Et on pourra lui reprocher, si l'univers ne fonctionne mal, un tremblement de terre, des inondations, tout ça. Il en est responsable parce que sa vraie fonction, c'est de s'asseoir vers le sud et de ce qu'on dit en chinois « wu wei », ne pas agir, laisser les choses se faire et se défaire. Créer l'harmonie du monde par son seul comportement.
Oui, enfin, je veux bien Jean-Paul Desroches, mais les Ming, c'est du moins ce qu'on dit. Leur successeur était un peu débauché, une part importante de l'espace, de la cité interdite était dévolue aux femmes et puis aux eunuques que vous citiez tout à l'heure, qui vivaient par milliers à l'époque des Ming, dans les palais impériaux, non sans heurts, avec les fonctionnaires. Femmes, eunuques, suite de nos documentaires.
Le roi a dépêché une armée dans tout le royaume pour y choisir les vierges. Qu'elles soient pauvres ou de bonne famille, toutes celles qui étaient jugées jolies devaient être signalées. Aucune ne devait pouvoir fuir. Le jour vint où les jeunes filles parurent dans le palais du roi.
Nous étions toutes de très jolies vierges. Et nous avions entre 13 et 25 ans. Nous étions une centaine, toutes alignées par ordre de taille, afin que les eunuques de l'empereur puissent nous examiner.
Montre-moi tes mains. Tourne-les. Tes dents. Ouvre la bouche. Ta bouche.
Voilà les jeunes femmes égarées dans le monde en déliquescence de la dynastie Ming. Dernier chant du cygne, 1598, le pavillon aux pivoines qui va être représenté dans le cadre de l'exposition La cité interdite au Louvre. La cité interdite au Louvre, c'est une exposition qui commence demain, qui va durer jusqu'au 9 janvier. L'un des commissaires, Jean-Paul Desroches, conservateur général par ailleurs au musée Guimet, est l'invité de la Marche de l'Histoire. Jacques Sigal a fait un montage un peu resserré, vous voyez, du pavillon Pivoine, 1598, parce qu'au Louvre, 6 épisodes sont représentés en 2 jours, le samedi 1er et le dimanche 2 octobre, chaque épisode durant entre 100 et 200 minutes, vous voyez. Alors, 1598, le pavillon Pouvoine, 1644, la chute de la dynastie Ming. Le rouge, c'était la caractéristique des Ming, c'est mon micro. Le jaune, c'est la caractéristique des Qing, voilà. Qui prennent le pouvoir, c'est à vous,
oui, Jean-Paul Desroches. Qui prennent le pouvoir de manière violente. Il est vrai que les Ming, comme vous le soulignez, c'est une période au moins à partir de 1598... On le voit, puisque l'empereur Wanli est un empereur extrêmement débauché. Hein. C'est une lente décadence. Et en 1644, monte sur le trône un empereur qui est un empereur qui vient de quasiment de l'étranger. C'est un mandchou.
Qu'est-ce que c'est un mandchou ?
Un mandchou, c'est... Maintenant, la mandchou est intégrée depuis et longtemps dans le territoire chinois. Un mandchou, c'est un homme qui appartient... à l'Extrême-Orient, mais qui appartient au monde des steppes. C'est-à-dire que, finalement, son meilleur compagnon, c'est son cheval et son arc. Donc, ce qui change beaucoup, ce n'est pas le pinceau. Et ça va être toute la stratégie extrêmement habile des Mandchous, parce que les Mandchous savent très bien qu'on conquiert un pays à cheval, mais on le gouverne au pinceau.
Oui, mais enfin, quand même, dans un premier temps, ils vont séparer les populations, mettre les Chinois à part, ségréguer.
Ségrégation immédiate. Vous avez deux solutions. Soit vous portez la natte, soit on vous coupe la tête. Donc, les données sont très claires.
Hein. La natte, ça date de cette époque.
La natte, c'est ce qui permettait de différencier un mandchou d'un Chinois d'origine Han. Donc, elle date de cette époque et il n'y a pas d'exception. Donc, les règles sont bel et bien maintenues parce que les Mandchous possèdent une extraordinaire armée, ce qu'on appelle les huit bannières. Et les huit bannières vont se répandre dans la totalité de l'Empire et maintenir l'Empire, le conquérir. Finalement, la conquête... Mais une vingtaine d'années.
Oui, mais après la conquête, disiez-vous, on revient dans le lit des traditions.
On revient dans le lit des traditions. Plus exactement, d'ailleurs, la conquête, il faut ajouter une chose, elle était facilitée par les jésuites. On a les jésuites qui étaient déjà en place à la fin des Ming, étaient d'excellents fondeurs de canons. Et donc, ils ont négocié la fonte de canons et leur présence à la cité interdite. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ?
Alors, vous dites leur présence à la cité interdite. Le retour aux traditions, l'empereur Mandchou devenant le garant du respect des traditions chinoises après les avoir bousculées, ça passe par l'installation dans la cité interdite qui est maintenue comme le palais de la nouvelle dynastie dans l'ancienne capitale. Ouais.
Quand les Qing entrèrent dans la cité interdite, elle était à moitié détruite. Ils la restaurèrent comme les Ming l'avaient bâtie. Tous les bâtiments furent reconstruits d'après les anciens plans. Les nouveaux sculpteurs copiaient les vieux sculpteurs. Mais quand ils en vinrent à la décoration intérieure, les Qing montrèrent un certain goût barbare, bien à eux. Un dragon Ming sollicitait l'attention. Un dragon Qing hurlait pour l'obtenir.
Ah, vraiment, il y a beaucoup de dragons dans l'exposition, la cité interdite.
Oui, il y a beaucoup
de dragons. Le dragon Qing est différent.
Le dragon Qing est différent. Il est évident qu'il est, il est beaucoup plus mobile, il est beaucoup plus nerveux. Hein. Et généralement, il est présenté avec le visage en face et des yeux exorbités. Donc, on comprend très bien. Et ses pattes sont munies de cinq griffes très écartées. Il a l'air de s'implanter complètement et de s'agripper solidement dans le décor.
Néanmoins, les empereurs mandchous s'adaptent si bien qu'aux yeux des étrangers, vous parliez de la pénétration jésuite, aussi importante que les grandes découvertes, explique le catalogue de l'exposition du Louvre, aux yeux des étrangers, ils passent pour la quintessence des Chinois.
Oui, tout à fait. Mais il fallait d'ailleurs, je crois qu'il fallait la présence de Mandchous pour que les jésuites s'implantent. Parce que, au fond, les Mandchous vont régner avec trois éléments. Le premier élément, c'est évidemment la puissance militaire de cette tradition des steppes. Le deuxième élément, c'est l'intégration des valeurs traditionnelles chinoises, c'est-à-dire les valeurs lettrées, les valeurs issues du pinceau. Et troisième force, ça ils ont tout à fait compris, ils allaient pouvoir innover et introduire, puisque les jésuites étaient quand même essentiellement limités à la proximité de l'empereur, introduire de la nouveauté, j'allais dire la high-tech. Et évidemment, un empereur comme l'empereur Kangxi a tout à fait compris le parti qu'il pouvait tirer de ces jésuites qui étaient des jésuites savants.
Hein. Alors, dans l'exposition du Louvre, vous vous attardez, Jean-Paul Desroches, à étudier les différents portraits des empereurs dont les règnes sont souvent très longs au XVIIe et au XVIIIe siècle, les contemporains de Louis XIV, de Louis XV. Alors, vous avez des portraits à cheval.
Tout à fait.
Alors là, il y a une forte influence occidentale.
Ah bah, les portraits à cheval, c'est évident que... D'abord, le premier portrait à cheval qu'on connaît, c'est celui de l'empereur Tianlong jeune. Donc, et là, c'est un jésuite qui l'a fait. C'est un jésuite d'origine milanaise, Giuseppe Castiglione. Et évidemment, c'est copié sur l'image de les portraits équestres romains, repris. Enfin, nous avons loué un certain nombre d'images comme ça. Et on a même mis en parallèle le portrait que nous présentons avec finalement les esquisses qui avaient servi à faire le portrait équestre de Louis XV qui figurait sur la place de la Concorde avant la Révolution.
On a même le portrait d'un empereur en costume occidental. Tout chassant à cheval.
Ah oui, alors c'est le père. Alors là, c'est une autre image. Elle donne l'impression d'être presque une caricature. Il s'agit de l'empereur Yongzhen. Nous sommes vers, autour de 1730. Curieusement, et ça c'est le décalage des informations, il porte une perruque Louis XIV, donc bien démodée en France à l'époque, avec un costume Louis XV, mais je pense qu'il ne faudrait pas isoler ce portrait du reste d'un ensemble, parce qu'on le connaît finalement portant un vêtement de lama tibétain, portant un vêtement de soldat mongol, etc. En fait, par ses portraits, parce qu'il s'agit d'albums, par ses portraits, c'est montrer le côté universel. L'empereur est l'homme universel.
C'est-à-dire donc, qu'il continue de jouer de la cithare en contemplant des fleurs de lotus.
Voilà,
aussi.
Mais il porte en lui la totalité du monde. C'est l'homme total. Et c'est là que cela veut dire.
Empereurs du XVIIIe siècle font place au XIXe, le terrible XIXe, à des souverains plus médiocres, au règne plus court. Et puis l'influence occidentale, là, devient pressante. Elle n'a été ni anticipée ni jugulée. C'est l'époque du grand déclin. Il n'y a pas beaucoup de choses dans l'exposition là-dessus que vous rêveriez de faire exposition les milliers, les dizaines de milliers de photos. Du 19e, oui, qui sont conservés à la Cité Interdite.
Il y a 30 000 photos qui sont... Oui, j'espère qu'on aboutira sur ce projet, parce qu'il y a des documents tout à fait extraordinaires. Et puis, c'est une période à réhabiliter. C'est difficile parce que, au fond, les Chinois se sentent très proches. Et pour la Chine, c'est une période un petit peu d'humiliation. Donc, c'est difficile d'en parler. On comprend que c'est difficile, comme il était difficile, par exemple, pour nous, dans l'après-guerre, d'évoquer certaines questions. Mais c'est évidemment une période fabuleuse. Mais quand même, nous avons présenté des portraits de fabuleuses robes et d'assez belles céramiques qui témoignent...
Période fabuleuse, je vous laisse la responsabilité du mot. Elle est souvent présentée comme une période de décadence. Heureusement, la Révolution vint...
Elle est présentée, mais parce que je crois qu'on a une vue un peu raccourcie et peut-être orientée de cette histoire. Je crois qu'elle demande d'être un peu réécrite.
La Chine a connu son industrialisation, a connu ses tentatives de réforme. Heureusement, je disais la Révolution 20, la première, c'est le centenaire, octobre 1911. Le dernier empereur, c'est un enfant. Il s'appelle Puyi. Il est réfugié dans le palais de la nourriture de l'esprit. Il est encore habillé du jaune impérial, mais en fait, il est déshabillé de tout pouvoir.
Pourquoi portes-tu ça? Il est interdit de porter du jaune. Et seul l'empereur peut porter ce jaune. Alors enlève-le. Non! Et d'abord, tu n'es plus l'empereur. Il y a un nouvel empereur maintenant. Il a coupé sa natte et au lieu d'un chameau, il a une voiture. Qu'est-ce que tu as dit?
Tu n'es plus l'empereur.
Pourquoi ce mur est-il là, grand chambellan?
Cela, ce n'est qu'un mur, votre majesté. Rien n'a changé ici.
Vous mentez, précepteur. Suis-je toujours l'empereur?
Vous êtes et vous demeurez l'empereur, dans la cité interdite. Non à l'extérieur.
Oh, je ne comprends pas.
À l'extérieur, la Chine est une république, avec un président.
Voilà, Pouilly finira en bleu de chauffe, jardinier, modèle, rééduqué, dans un jardin de la Chine communiste.
1920. Il va rester quand même jusqu'en 1924 dans la cité interdite.
Il s'y marie d'ailleurs, c'est la dernière cérémonie.
Oui, il se marie à Wanzhang et voilà.
La cité maintenant est ouverte au public. 13 millions de visiteurs en 2010 avec une restauration tout le temps.
Oui, en permanente. Et là il y a eu un effort considérable. Et évidemment, aux Jeux Olympiques, la cité interdite a été grandement restaurée. À notre goût, un peu ripolliné, parce qu'on n'est pas habitué à ces contrastes violents. Mais il est vrai que le climat assez dur de Pékin patine très vite les murs.
Dites-moi, des trésors très bien choisis par Chiang Kai-shek. Deuxième révolution chinoise, au moment de son départ forcé pour Taïwan, font qu'il y aurait moyen de faire une exposition à Taipei.
Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, je pars à Taipei pour monter une exposition aussi croisée entre Louis XIV, notre roi soleil, et l'empereur Kangxi, puisqu'ils se sont connus, ils se sont écrits. Nous avons dans l'exposition du Louvre même la lettre du traducteur de Louis XIV. Nous avons aussi un superbe livre que l'empereur Kangxi a envoyé directement à Louis XIV.
Alors attendez, là, les auditeurs vont se perdre. Demain, vous ouvrez au public l'exposition au Louvre, sur le thème « La cité interdite au Louvre », avec les trésors de Pékin. Et demain, vous partez aussi à Taipei pour faire une exposition un peu semblable sur un motif un peu plus resserré. C'est-à-dire que quand Taipei agit, Pékin réagit, à moins que ce ne soit l'inverse.
Oui, c'est alternatif. C'est le courant alternatif et Taipei réagit. Et donc, le 2 octobre à Taipei, on croise cette fois, finalement, le Versailles. Et les collections.
Mais ça veut dire profondément que pour les dirigeants chinois des deux côtés, c'est important d'avoir l'héritage du Fils du Ciel.
C'est important parce que qui détient l'héritage du Fils du Ciel détient le mandat céleste. Et c'est vraiment la clé. Et le fait que ces œuvres soient prêtées au Palais du Louvre, évidemment, ça donne un sens très très profond auquel les Chinois s'attachent. Et nous avons voulu aussi le manifester en publiant évidemment le catalogue, aussi bien en langue chinoise qu'en langue française.
Merci à vous Jean-Paul Desroches. Demain, on va parler de la petite Belgique. Vous connaissez la Black Belge. S'il y avait autant de ministres en Chine qu'en Belgique, en proportion, il y en aurait 1 million. En Chine, l'émission était réalisée par Jacques Sigal avec Jean-Philippe Jeanne, Maxime Anna, la préparation, Franck Olivard et Frédéric Martin. Voilà, dans quelques instants, la nourriture de l'esprit, ce sera Mathieu Vidard, la tête au carré. Et dans peu de secondes, les informations de France Inter.